I'm a man.
Well, nobody's perfect.
I'm a man.
Ses splendeurs et sa tristesse ont été créées pour d'autres imaginations que les nôtres. Cette citation du jeune Pierre Loti m'est venue à l'esprit tandis que je lisais l'adaptation en bande dessinée de « Pour qui sonne le glas » par Jean-David Morvan et Pierre Davance, ou Davance, c'est un W, on va partir sur Davance. C'est aux éditions Sarbacane. Alors même si cette citation, elle commente un autre univers, splendeur, tristesse, créée pour d'autres imaginations, parce que c'est évidemment... pour ceux qui le savent, c'est un... Pour qui sonne le glas se déroule pendant la guerre d'Espagne. Et on a trop souvent réduit dans nos cours d'histoire où la guerre d'Espagne à la répétition générale de la Seconde Guerre mondiale, alors que la guerre civile espagnole fut une horreur l'homme, quand il s'agit de se battre avec son voisin, redouble de cruauté. Alors, pour qui sonne le glas est plus qu'une histoire des batailles, une histoire de... C'est vraiment une histoire d'homme. C'est une histoire d'homme presque immobile. C'est celle de Robert Jordan, surnommé l'Inglès. C'est un prof aux États-Unis qui fait partie des brigades internationales. Alors, il faut savoir que Hemingway, lui, ne faisait pas partie des brigades internationales. Il était grand reporter. Il n'a pas contribué à des actes de guerre, même si par ses reportages et des documentaires aussi qu'il a produits, qu'il a projetés à Hollywood, à New York, dans les grandes villes. Il récupérait comme ça de l'argent pour le camp républicain, bien sûr. Donc, Robert Jordan, leader naturel, artificier, il est envoyé dans les montagnes de Castille pour rejoindre une poignée de partisans républicains. Je le rappelle, on est en 1937, je dirais. La mission... Faire sauter un pont. Alors, on est nombreux à connaître l'histoire de Jordan, Maria, Pilar, Pablo, parce que le roman est un classique et il a donné lieu dès 1943 à une ample fresque immobile au cinéma. Pour ceux qui l'ont vu, on se souvient toujours de ce film qui n'est peut-être pas très bon, mais qui fait partie de la mythologie un peu hollywoodienne. C'est un film de guerre avec une romance magnifique au cœur. Oui, voilà, c'est ça qui est très beau. C'est un film de guerre qui contient une romance, et la romance est entre Gary Cooper et Ingrid Bergman, donc forcément. Ingrid Bergman avec une coupe de garçonnet et un fond de teint hâle soutenu pour faire croire qu'elle est espagnole. L'actrice suédoise, elle enchaîne à ce moment-là, en 42-43, deux grands films sur la résistance, l'adaptation donc d'Hemingway et Casablanca, donc deux classiques immédiats et loués encore de nos jours, qui font d'elle, elle avait 28 ans à l'époque, une icône hollywoodienne toujours célébrée. Il y a aussi dans...
J'ajouterai Les Envoûtés d'Hitchcock, qui est à peu près de la même période.
Et qui en plus est un film de...
Aussi dans le contexte de guerre. De résistance. Elle est fille de nazis. Et
voilà. Ouais. Ah oui, oui, oui. D'accord. Il y a aussi l'actrice grecque Katina Paxinaou, j'espère bien le prononcer, qui joue Pilar dans le classique de Sam Wood. J'ajoute que le livre, lui, a toujours une postérité brillante, d'une part parce qu'il est lu, toujours disponible, etc. Et par exemple, si on prend la saison 1 de la série Star Wars Andor, très très bonne série, il y a un arc narratif dans cette saison 1 où Andor rejoint la montagneuse planète Aldani, et sous les arbres, il attend avec quelques compagnons le moment pour mener une action de sabotage sur une base de l'Empire. Et vraiment, la référence à Pour qui sonne le glas est plus qu'évidente. Elle parcourt tout cet arc narratif. Alors, ces références hollywoodiennes faites, eh bien, vous oubliez tout ça. Parce que la bande dessinée de Morvan et Davance, d'ailleurs, je vous la passe, veille à ne rien devoir au cinéma. Et elle le fait bien. D'abord, l'adaptation. Elle rend bien l'attachement sentimental, viscéral, à leur terre qu'ont les Espagnols. Alors, C'est assez vu par Hemingway, hein, je ne veux pas essentialiser non plus. Et puis il y a aussi cette conscience du fatum, comment ils sont portés par cette certitude d'avoir un destin, et un destin qui tournera mal. Tout est là, et avec des majuscules, loyauté, courage, lâcheté, amour, camaraderie, trois points de suspension plein de noblesse. Le lait y existe à côté du beau, le difforme près du gracieux. Le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l'ombre avec la lumière, convoquer Hugo, ça se tient, je viens de le faire. La couverture indique donc, d'après Ernest Hemingway, c'est bien qu'il figure sur la couverture parce que le style Hemingway est là, ce style tac-tac-tac est là. Dorothy Parker disait en fin 1929, elle écrit « Ernest Hemingway est de loin le plus grand artiste américain. C'est un enfer de trouver quelque chose de plus compliqué ou nécessaire à dire à son sujet. » Eh bien, on va tenter de trouver une ou deux choses quand même à dire sur ce style tac-tac-tac qui est adapté ici. On le fera après Billy Bragg and Wilco, pour une chanson qui s'appelle Ingrid Bergman.
Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, let's go make a picture on the island of Stromboli. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, you're so pretty. You'd make any mountain quiver. You'd make fire fly from the crater. Ingrid Bergman, this old mountain, it's been waiting all its life for you to work it, for your hand to touch its hard rock. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, if you walk across my camera, I will flash the world your story. I will pay you more than money, Ingrid Bergman. Not by pennies, dimes, nor quarters, but with happy sons and daughters, and they'll sing around Stromboli, Ingrid Bergman. This old mountain, it's been waiting all its life for you to work it, for your hand to touch its hard rock. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman.
Ingrid Bergman, Billy Bragg et Wilco, ce vers du poète John Donne pour Qui sonne le glas a donné l'une des plus célèbres questions de la littérature américaine et elle revient là ce soir grâce à J.D. Morvan et Pierre Davance dans leur adaptation de pour Qui sonne le glas, c'est aux éditions Sarbacane.
Ah oui, vous pensez que c'est une question ?
Je pense que c'est une question. Alors, je crois que dans le poème de John Donne, c'est une question. Pour qui sonne le glas ? Je crois. Mais à vérifier, en effet, oui. Il y a un moment, une scène que j'ai bien aimée dans la BD, c'est le général soviétique qui donne ses ordres à Jordan. Et comme tous ceux qui n'accompliront pas la mission, il tient à la justifier. Mais alors il le fait d'une manière qui m'a beaucoup plu. On voit comment le texte de Hemingway rencontre est délivré comme dans un comic strip. Vous savez, le système de cette bande avec... souvent trois cases. Là, il s'avère que la silhouette du général soviétique revient six fois et que c'est un homme courbé avec un uniforme, les cheveux ras. Il porte une carte roulée, un petit peu comme un bâton de maréchal ou comme quelque chose qui lui permettrait d'indiquer des points abstraits. Et il dit à Jordan... Je vais le citer, alors c'est écrit en c'est minuscule sur ma feuille, parce qu'évidemment j'ai voulu intégrer l'image, là c'est n'importe quoi cette idée. J'ai copié-collé l'image, donc je n'arrive plus à me relire. C'est une opération très compliquée et très belle, comme toujours. Le plan a été élaboré à Madrid, c'est encore un chef-d'œuvre de Vincente Rorro, le professeur malchanceux. Et j'ai adoré cette façon d'intégrer un plan qui n'est pas du tout film de guerre, pour le coup. Hein. Donc, à la fin de toute cette séquence, on constatera en plus que le général ne manque pas d'esprit. Et c'est souvent le cas dans cette bande dessinée. Pilar, Jordan, les autres compagnons échangent des propos brefs dont la concision n'empêche pas l'achèvement. Il y a de nombreux dialogues over the top, il faut le dire, presque excessifs. Hein. Ils échangent des déclarations définitives comme une monnaie qui n'aurait plus cours. Et à la suite de ces déclarations, ils accrochent de brefs mots pleins d'esprit. Alors attention, quand je vous dis ça, c'est pas une comédie dramatique, hein, c'est plutôt comme une figure de style. Voilà, pour qui sonne le glas, on y voit des personnages entiers en pleine tragédie dans l'un des plus grands mélos secs du XXe siècle. Tiens, aussi on voit un second rôle piquer la vedette au premier rôle. Je pense à Pilar, le personnage de Pilar dans la bande dessinée, maîtresse-femme qui règne impérieusement sur le camp où Robert Jordan débarque, Pilar au bras nu, toujours écarté, comme jeté loin du corps, le lourd et ample coton rouge de la robe. Pilar ne marche pas, à chaque pas elle délimite un espace où les plus couards peuvent se réfugier. La bande dessinée vraiment est vécue comme une... On peut vraiment la voir comme une réserve scénographique de toiles peintes qui se lèvent, se déroulent, tombent au sol. Nous voilà aux ateliers Berthier, dans la réserve d'un théâtre, mieux d'un opéra, de l'opéra Garnier, pourquoi pas. Même devant l'entrée de la grotte où vivent les républicains, qui leur sert de refuge, il y a un rideau. Et donc, il y a une sorte de stylisation ultra. Et donc, il faut éviter un contresens. C'est que le livre ne montre rien, finalement, de la nature. C'est un livre qui se passe en pleine montagne, qui se passera toujours en pleine montagne. Mais ce n'est pas un livre sur la nature. C'est pas le livre d'un monde sauvage dans lequel se massacrent des hommes égarés. Nul panthéisme. Hein, voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Ajoutons que cet atelier des décors peints a été déserté par Dieu aussi depuis longtemps. Alors, le dessin. Le dessin, il joue la pente. Il joue la déclivité, le relief. Le versant qui triomphe de la surface plane, parce que la pente, c'est l'espace de survie des résistants, des républicains. Page 54, Pilar s'adonne à la géographie élémentaire. « Trop de pain !» s'exclame-t-elle, bras et tête dressés vers le ciel invisible, comme si elle s'adressait justement à ce dieu qui a déserté l'endroit. « Trop de pain !» J'aimais ça, mais j'en suis blasé, autant que des montagnes. Dans les montagnes, il n'y a que deux directions, descendre et monter. Et quand on descend, on arrive à la route et aux villes des fascistes. Compris ? La mise en case de cette planche, d'ailleurs, on profite aussi pour jouer la croissance, parce que les cases forment un escalier qui nous emmènerait loin de la vallée nationaliste. J.D. Morvan ne se lassera pas, et nous non plus, de multiplier les effets de rayures en utilisant la forêt de pins. Les arbres ne sont que des troncs qui fusent, une forêt de colonnes. C'est graphique, c'est rythmique, c'est antique ce qui se déroule dans les montagnes castillanes. Et pour les couleurs, alors là, un dégradé progressif, c'est le règne du tie and dye. Alors le tie and dye est plutôt un terme de coiffure, mais on me l'acceptera cette fois-ci. C'est vraiment un tie and dye d'une nuance à l'autre. Beaucoup de tabac, citrouille, châtaigne, des bruns. Parfois, ça flamboie avec de l'orangé, avec quelque chose qui est presque acajou, comme le rideau de la grotte, mais le temps de le dire s'est passé, un petit peu comme si le soleil n'apparaissait que un peu à travers les pins. C'est une lumière changeante, je viens de le dire. Page 62, par exemple, on a un magnifique exemple de ce hachurage vertical, et au sol, quelques taches ocellées, c'est le pelage d'un fauve. Alors ça, c'est pour l'acte 1 du livre, parce que comme beaucoup de romans de guerre ou de chapitres dans les romans de guerre, c'est une BD de l'attente. on observe ce pont qu'il va falloir faire sauter, on surveille de loin les fascistes, on s'épie, méfiant, dans la grotte entre guerrilleros. Il y a de nombreux flashbacks aussi, où le grisé permet de représenter frontalement des scènes violentes, mais vraiment violentes. Et je vous propose qu'on fasse une pause avec José González, A Perfect Storm. Et José González, malgré son nom, ne vient pas d'Espagne ou du Portugal, mais il est de la même nationalité qu'Ingrid Bergman. José González, Perfect Storm dans le Nobody's Perfect, c'est une Ballistic Café Society, avec ce soir Benoît qui réalise. Ça va Benoît ?
Mais parfaitement.
Pour qui sonne le glas, ça vous parle un petit peu ?
Non, je n'ai ni lu ni vu le film.
Ah non, mais je vous parle même plus généralement, toute cette période-là.
Et le morceau de Metallica ?
Qui vous intéresse ?
Le morceau de Metallica qui s'appelle For Whom the Bells Rings. Pour qui sonne le glas ?
Non. Cette période-là de l'histoire, non, je la connais très très peu.
Vous la connaissez peu parce qu'elle est quand même assez renseignée en bande dessinée, entre autres.
Ouais.
Je crois qu'il y a David B qui a parlé. Il y a des bons trucs. Je pense que cette BD-là vous plairait.
C'est possible.
Je vous le dis. Et vous, un souvenir de... Si je vous demande le souvenir du film...
Très lointain. Je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu quand je faisais ma culture classique hollywoodienne, il y a facilement 25 ans. Souvenir, oui, de la coiffure d'Ingrid Bergman, mais très très peu de souvenirs du reste. Après, comme vous l'avez dit, je crois que c'est Sam Wood. Et Sam Wood, c'est pas un très grand cinéaste, c'est un faiseur qui a tourné beaucoup de choses et dans des registres très différents et sans grande personnalité. Mais je pense que pour avoir en tête le roman sans le lire, ça peut être un bon.
Bon, c'est vrai qu'on a cité quand même Casablanca, Les Enchaînés juste à côté. Il faut dire que cette romance aussi, pour le public français, signifie quelque chose, puisque dans le fameux générique du dimanche soir,
Le baiser.
Le baiser les deux visages de Gary Cooper et d'Ingrid Bergman apparaissaient dans les séances du cinéma de minuit. Donc il y avait ce côté-là aussi, je pense, qui a dû nourrir
la légende.
Hein, on se disait, c'est un film qu'il faut avoir vu quand même. Donc voilà. Donc là, on a affaire vraiment à une adaptation qui est non pas la petite légende dorée, mais plutôt la légende contrastée de la noblesse et des lâchetés de quelques individus dans une guerre épouvantable. L'acte 2, il se déroule dans le jour blanc, sans ciel, d'une neige tardive. La neige, donc, le jeu vertical de rayures des troncs est devenu maintenant, a quitté le châtaigne pour devenir brun sombre, si ce n'est noir. Vous savez, cette couleur noire particulière des troncs de pins quand il y a de la neige tout autour, ou des sapins. Il y a un noir qui est assez surprenant. Et aussi, il y a un hachurage horizontal des couches de neige sur les pins. Si bien que le dessin, souvent, une sorte d'abscisse est ordonné pour placer les scènes d'action, puisque l'acte 2 est quand même plus rythmé. Des scènes d'action et la robe des chevaux, parce qu'il y a beaucoup de chevaux dans l'acte 2. Et voyez d'ailleurs comment les chevaux sont traités. On croirait que c'est la première fois qu'on dessine des chevaux. C'est-à-dire qu'on a vraiment un hommage à ce qu'on peut appeler, je ne sais pas si le terme est exact, mais primitiviste. C'est-à-dire vraiment à la peinture primitivisme, le primitivisme, cette façon comme ça de représenter choses, objets et hommes en s'inspirant de tout ce qui nous vient de l'art pariétal, de l'art soufflé, etc. Et de l'inclure comme ça à toute une culture contemporaine. L'acte 2, donc... n'empêche pas cette radicalité qu'on a tout le temps, pente plus tronc, ça n'empêche pas le dessinateur d'avoir d'autres audaces. Des audaces ponctuelles, comme par exemple ce double cylindre enchâssé qui symbolise la vision par une paire de jumelles, hein, on connaît ça. Voyez aussi ce retable dans lequel il dessine le martyr d'un combattant, c'est très beau. Ou bien ce jeu graphique avec les guérites, ça c'est plutôt au début de la BD. Vous savez, les guérites, c'était ces cabanes dans lesquelles on mettait un garde armé. Et elles avaient la particularité d'être peintes avec un motif en chevron tricolore. Je crois que c'était un or noir et rouge. Vous voyez ce dont je parle ? Pas
non.
Du tout. Bon,
c'est
pas
grave.
Moi, je vois
les guérites de chasseurs, mais...
Ouais. Et ben, donc, dans ce cas-là, c'est très beau parce qu'il inclut ça dans ses dessins, dans les planches, et on a l'impression d'une flèche, et on se dit, mais est-ce qu'on doit suivre la flèche qui nous met ? Voilà, c'est ça, les guérites.
Oui, c'est pas très radiophonique, mais
oui,
j'ai trouvé la page.
On mettra une photographie sur le
D'accord,
Facebook.
Oui, ok.
Donc on a l'impression comme ça, entre le jeu avec les jumelles, les guérites, on a l'impression vraiment, pour le coup, là, d'arriver dans quelque chose de beaucoup plus contemporain. Vous avez trouvé aussi la très belle double page du retable, hein, qui est vraiment un moment très, très fort. Et puis, citons page 46, une référence à Magritte, et puis page 43, sensualité troublante, ce premier baiser entre Maria et Jordan, qui n'est pas une affaire de chair, mais de deux masques, face de peau qui se collent, s'étirent, s'étalent, se rétractent. Alors il y a une constante, et je la rappelle. Les auteurs refusent l'hommage au cinéma. Rien que le premier baiser, quand vous irez page 43, vous verrez que ce n'est pas du tout un premier baiser de cinéma. Il y a une constante, donc les auteurs refusent l'hommage au cinéma. C'est une œuvre qui dit son admiration pour les illustrateurs, les peintres. J'ajoute ici que ce n'est pas une bande dessinée qui se lit comme une prairie de référence. Hein, ce que je viens de faire en disant « voyez Magritte, voyez ceci, voyez cela ». La BD plutôt développe un univers graphique et narratif très précis. Et s'y tient, hein, on est plutôt là-dessus. On s'y enfonce comme dans une forêt ponctuée d'orifices, les grottes, les taches de soleil au sol, les rares trouées de ciel à travers les arbres ou la couverture qui recouvre les amours de Maria et Jordan. Alors, on va tranquillement aller vers la fin de ce Nobo. Je voulais citer justement, eh bien, ne pas citer de cinéaste, mais citer deux peintres et revenir sur une illustration. D'abord, citer Tarsila do Amaral. Alors, les Brésiliens exercent une relation de familiarité avec elle et l'appellent Tarsila. Tarsila do Amaral, reconnaissance européenne plutôt tardive, puisque en 2024, le musée du Luxembourg lui a consacré une magnifique exposition, mais je crois qu'elle n'était pas si connue que ça, hein, sinon. Hein. C'est une grande artiste et une œuvre qui puise dans les imaginaires indigénistes, populaires, modernes du Brésil. Je sortais le mot primitivisme tout à l'heure, ça a à voir avec ça. On trouve chez elle, mais gardez les dessins de Jean-David Morvan en tête, on trouve chez elle une sorte de gigantisme onirique. Les corps subissent des déformations sur des fonds stylisés, mais en même temps, ils palpitent d'émotion. Ce sont des figures humaines aux hypertrophies en rondeur. Tarsila, et partant J.D. Morvan, c'est l'éloge de la courbe, c'est le bannissement de l'angle droit. On va écouter Moki, parce qu'on a le temps d'écouter Moki, Benoît. Et je vais vous dire un truc, Moki, ça n'a rien à voir Today, Years Old, ça n'a rien à voir avec le Nobody's Perfect de ce soir, mais c'est ma journée d'anniversaire et je fais ce que je veux.
Blossoms briefly, our branches reaching along the road. Our shores receding, the time is fleeting, if we only know.
Moki, qui n'a certainement pas participé à la surprise partie de Donald Trump, comme vous le laissiez entendre, Benoît, mais qui fait partie de la mienne, sans nul doute.
Oui, mais de toute façon, il n'y avait pas d'artiste qui voulait participer.
Non, de toute façon, il n'y avait pas d'artiste.
Ils étaient chez vous.
Oui. Donc, on reprend et on attaque vraiment à la toute dernière ligne droite sur notre « Pour qui sonne le glas » par J.D. Morvan et Pierre Daouance. C'est chez Sarbacane. C'est évidemment une adaptation, mais plus que ça, hein, j'ai eu le temps de le développer, du roman de Ernest Hemingway. Autour de la table, toujours Antoine, et puis évidemment, l'émission est réalisée par Benoît. Chez Morvan, les corps connaissent aussi des hypertrophies. On parlait des hypertrophies qu'on trouve chez Tarsila. Des hypertrophies, des changements d'échelle. Les paires de jambes se font plus longues, plus épaisses, plus ancré dans le sol. Et puis, lors d'une case, l'autre, le corps est arrêté dans un mouvement. C'est comme s'il venait d'être transformé en statue de sel. Exemple, moi qui m'a bien plu, il y a un moment, un homme qui a une jambe pliée, appuyée sur un rocher, l'autre tendue au sol, et il parle le buste baissé, le coude posé sur la cuisse. Et c'est juste parfait, mais en même temps, on a l'impression que cet homme sera toujours comme ça, sera toujours à cet endroit-là. Bon sang de bois, il m'a quand même fallu 40 mots et un joli fatras pour vous décrire ce que le dessinateur vraiment résume en 3-4 courbes affermies. Alors, une autre référence, je vous ai promis de peindre, une autre référence avec deux toiles de Diego Rivera qu'il faut aller voir parce qu'elles ont à voir, je me dis que J.D. Morvan devait avoir peut-être ses cartes postales punaisées pas loin. La danse de Teuhan Tepec, j'espère le prononcer correctement, pour le dynamisme des corps dansants et les étoffes autour. Et puis, c'est un magnifique hommage au peuple, alors au peuple mexicain. Et puis, il y a une autre toile qui s'appelle Le porteur de fleurs et qui est un hommage plein de respect à ceux qui, à genoux, travaillent la terre. Et vraiment, allez voir ça parce que je pense que ça n'est pas sans lien avec nos beaux de ce soir. L'illustration page 140 qui va me permettre de conclure. On s'arrête page 140 pour une illustration pleine page. C'est celle d'ailleurs qui est reprise avec des modifications pour la couverture. On voit notre héros à échelle réduite, seul dans la forêt. Ce n'est plus la forêt, c'est un temple stylisé, c'est un songe symboliste. Les colonnes sont drapées de lourds tissus sépulcraux, la théâtralité à son comble. Le protagoniste avance dans des nappes d'une lumière lugubre, maculée, cernée par de violentes taches d'ombre. Seul, il avance sans sac, ni arme, ni rien. Même sa propre ombre semble détachée de lui. Et est-on déjà dans les limbes? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, l'Inglès les convoque pour retrouver son grand-père, pour entendre encore une fois sa voix. Le vieux, donc le grand-père de Robert Jordan, issu de la guerre de sécession, rendez-vous compte, passe son père aussi, le père de Robert, suicidé, qui lui était de la Lost Generation et qui, quand il est revenu en 18, ne s'est jamais remis de ce qu'il a vécu en Europe. Rarement personnage nous aura paru si seul, dernier avatar d'une lignée d'hommes en armes avec un code d'honneur d'un autre temps. Alors, oui, ces splendeurs et cette tristesse ont été créées pour d'autres imaginations que les nôtres. Mais toutefois, comme je vous ai promis les fenêtres à ouvrir sur de nouveaux panoramas, eh ben on peut retrouver grâce à des artistes comme Morvan et d'avance, une possibilité comme ça d'ouverture sur cet espace-là. Je vous vois feuilleter... il y a des... là, on est quasiment chez Picasso, je pense, avec un cheval... Un cheval qui... Voilà, ça...
On va pas trop en dire, mais il y a une double page très spectaculaire sur la fin.
Oui. We'll be right back.
take the wire back as far as it'll reach before I connect it.
Roberto! Roberto! Hey!
Guarda, Anselmo!
Roberto! You'll be...